un œil ailleurs. Un petit tour de la planète. Totalement subjectif.
Notre petit tour de la planète totalement subjectif commence cette semaine par un mini-scandale provoqué par une petite ville du nord-est de l'Italie. Le 25 octobre, le conseil municipal d'Anguillara Veneta n'a rien trouvé de mieux à faire que de nommer Jair Bolsonaro citoyen d'honneur de cette bourgade de 4000 habitants. Alors on ne rappellera pas ici les faits d'armes du président brésilien contre les femmes, les homosexuels, l'environnement, car la liste est trop longue. Mais allez, pour le plaisir quand même, rappelons que le 7 octobre dernier, Jair Bolsonaro a mis son veto à une loi contre la précarité menstruelle votée par le Congrès. Il s'agissait de permettre à 5,6 millions de femmes vulnérables, écolières, femmes à la rue ou femmes détenues, de bénéficier gratuitement de serviettes hygiéniques, ce qui aurait permis notamment aux jeunes filles d'aller à l'école pendant leurs règles, puisque selon l'ONG Girl Up, près d'un quart des jeunes filles n'ont pas accès à des protections hygiéniques et doivent donc louper l'école à cette période de leur intimité. Bref, une loi sans importance, quoi. Alors face au tollé provoqué par ce veto, Bolsonaro a tout simplement expliqué avec cynisme, je cite, « Si le Congrès annule le veto sur les tampons, je devrais prendre de l'argent dans les budgets de la santé et de l'éducation. » Alors autant dire que la décision prise par la municipalité d'Anguillara Veneta a fait quelque peu désordre et a provoqué quelques réactions indignées. Mais pour la maire de cette petite ville de Vénétie, la politique n'a rien à voir là-dedans. Il y a 3 ans, Jair Bolsonaro a tout simplement découvert que sa famille avait émigré au Brésil depuis cette petite ville en 1888. Avec ce geste, nous voulons seulement exprimer notre reconnaissance et notre admiration pour tout le peuple brésilien représenté par son président. Une justification qui ne passe pas vraiment. On poursuit notre petit tour de la planète par une escale en Israël. L'État hébreu vient une nouvelle fois d'illustrer son labourage des droits des citoyens palestiniens. Le 19 octobre, le ministère de la Défense a classé terroristes 6 ONG dont le seul tort est de soutenir la population palestinienne. Les élus sont donc Adamir, Al-Haq, le Centre Bizan pour la Recherche et le Développement, Defense for Children Palestine, l'Union des Comités de Travail Agricole et l'Union des Comités des Femmes Palestiniennes. En vertu d'une loi israélienne de 2016, cette classification d'organisation terroriste permet donc aux autorités israéliennes d'interdire leur activité, de fermer leurs bureaux, de saisir leurs biens et évidemment d'emprisonner leur personnel. Il est bien évidemment désormais interdit de les soutenir financièrement. Alors, qu'Israël empêche les humanitaires et les observateurs de travailler dans les territoires palestiniens n'est pas une nouvelle, mais cette décision marque clairement une escalade dans le processus anti-palestinien. Pour Human Rights Watch et Amnesty International, je cite « Cette décision déplorable et injuste constitue une attaque du gouvernement israélien contre le mouvement international des droits humains et menace de mettre un terme au travail des principales organisations de la société civile palestinienne. » Fin de citation. Puis bon, comme d'habitude, on attend les réactions de la communauté internationale. D'Israël, on file à l'ONU. Dans un rapport paru le 15 octobre, l'agence de l'ONU pour les migrations indique clairement que les travailleurs migrants sont surreprésentés dans les emplois dangereux. C'est eux qu'on retrouve en priorité dans les secteurs de la construction, de l'industrie manufacturière, de l'exploitation minière ou de l'agriculture et qui sont plus souvent victimes d'accidents du travail. Accidents que l'Organisation internationale du travail qualifie d'accidents évitable. Alors sans surprise, ils sont aussi surreprésentés dans les emplois de l'économie informelle. Selon l'agence de l'ONU, 164 millions de travailleurs migrants représentent près de 5% de la main-d'œuvre mondiale et jouent un rôle économique essentiel tant dans les pays d'origine que dans les pays d'accueil. Forcément, ils assurent les boulots à risque dont personne ne veut et les devises qu'ils envoient dans leur pays d'origine représentent jusqu'à 40% de leur PIB. Et on termine notre petit tour de la planète par un petit pays européen où on met rarement les pieds ici, le Luxembourg. Le 22 octobre, le Grand-Duché a annoncé la légalisation de la production et de la consommation du cannabis récréatif. Et c'est le premier pays européen à franchir le pas. Les consommateurs pourront importer des graines pour leur plantation et leur consommation personnelle. En revanche, le commerce du cannabis reste interdit, tout comme la consommation et le transport en public. Ouais, car cette décision n'est pas tant un cadeau aux consommateurs que la première étape d'un processus de gestion du cannabis par l'État luxembourgeois pour éloigner les consommateurs du trafic illégal. Autoriser la consommation personnelle pour faire cesser le trafic, vaste débat sur lequel je vous laisse méditer, chers auditeurs, jusqu'à notre prochain petit tour de la planète totalement subjectif.